Chapitre 7. Aperçu à vol d'oiseau de la demeure de Miss Tox et de l'état de son cœur. Miss Tox habitait une obscure petite maison qui s'était trouvée étranglée et perdue dans la construction d'un quartier élégant vers l'ouest de Londres, à une époque reculée de l'histoire d'Angleterre. Depuis, elle était restée là, à l'ombre, dans un coin, comme une parente malaisée de la grande rue du Beau Monde, dont les opulentes maisons la regardaient froidement d'un air de protection. Elle se trouvait séparée de la rue par un espace assez grand, donnant le milieu entre une cour d'entrée et une cour d'écurie. En tout cas, la plus triste des impasses, agitée seulement par les coups de marteau répétés à distance à la porte des heureux du jour. Ce lieu retiré, où l'herbe poussait entre les pavés, se nommait la place de la princesse. Sur cette place de la princesse était aussi la chapelle de la princesse, avec sa cloche au son argentin, où quelquefois il venait jusqu'à 25 personnes le dimanche assister au service. Puis un peu plus loin, c'étaient les armes de la princesse, fréquentées assidûment par des domestiques de grandes maisons. Une chaise à porteurs, qui de mémoire d'homme n'avait jamais changé de place, se trouvait devant les armes de la princesse dans l'intérieur de la grille. Et, dans la belle saison, Miss Tox avait remarqué que les 48 pointes des barreaux, qu'elle avait souvent comptées, étaient coiffées chacune de son pot à bière renversé. Outre la maison de Miss Tox, il y avait encore sur le même emplacement une autre maison particulière, car il est inutile de parler d'une grande porte cochère avec deux têtes de lion pour marteau, porte qui ne s'ouvrait jamais et qu'on supposait avoir dû servir, dans un temps, d'entrée pour conduire aux écuries. En effet, on respirait sur la place de la princesse un parfum de cheval, et la chambre de Miss Tox, qui donnait sur le derrière, avait vu sur une longue suite d'écuries, où les valets, quelles que fussent leurs occupations, ne manquaient jamais de les entremêler de scènes à grand tapage. De ses fenêtres aussi, Miss Tox avait l'avantage de voir suspendus sur les murs, comme les étendards de Macbeth, les vêtements les plus intimes et les plus secrets des cochers, de leurs femmes et de toute leur famille. Dans la seconde maison particulière de la place de la princesse, un sommelier retiré, qui avait épousé une femme de charge, louait ses appartements meublés à un célibataire, un major de l'extérieur le plus comique, avec des traits anguleux, un visage enluminé, des yeux qui lui sortaient de la tête, et auquel Miss Tox trouvait, comme elle le disait, un je-ne-sais-quoi tout à fait militaire. Un échange de journaux, de petits livres et d'autres attentions tout aussi platoniques avait lieu entre le major et Miss Tox par l'intermédiaire d'un domestique noir au service du major, que Miss Tox se contentait d'appeler un naturel, sans rattacher au lieu de sa naissance la moindre idée géographique. Peut-être ne vit-on jamais un corridor et un escalier aussi étroit que le corridor et l'escalier de la maison de Miss Tox. Du haut en bas, c'était la petite maison la plus incommode, la plus tortueuse de toute l'Angleterre. Mais Miss Tox en vantait sans cesse l'agréable situation. Dans l'hiver, c'est à peine si l'on y voyait en plein jour, et même dans l'été, le soleil ne s'y montrait jamais. Quant à l'air, il n'y fallait pas songer, pas plus qu'à voir des boutiques animer ces murs de clôture fermés au commerce. Pourtant, Miss Tox le répétait toujours, « Oui, mais quelle agréable situation !» Le major, enluminé, avec ses yeux qui lui sortaient de la tête, pensait comme Miss Tox. Il se faisait gloire d'habiter la place de la princesse, et c'était un véritable bonheur pour lui, quand il le pouvait, de faire tomber la conversation, au club, sur un point qui eut quelque rapport avec les grands personnages de la grande rue du coin, simplement pour se donner la satisfaction de les appeler ses voisins. La triste demeure qu'habitait Miss Tox lui appartenait. Elle lui avait été laissée en héritage par le propriétaire du fameux œil de poisson monté en bijoux, et dont le portrait, avec une perruque poudrée et une petite queue, faisait le pendant de la poignée destinée à prendre sur le feu la cafetière que l'on accrochait de l'autre côté de la cheminée de la salle à manger. La majeure partie de l'ameublement remontait au temps des perruques poudrées et des queues, sans excepter ni le réchaud, qui traînait partout languissamment sur ses quatre jambes assez grêles, et se trouvait toujours sur le passage, ni la vieille harpe, enjolivée d'une guirlande coloriée de pois de senteur, qui entourait le nom du fabricant. Le major Bagstock avait atteint cet âge que la littérature honnête appelle poliment le midi de la vie, c'est-à-dire qu'il commençait à descendre l'autre côté de la glissoire. Il se voûtait, ses joues se creusaient, ses longues oreilles d'éléphant pendaient démesurément, et ses yeux et sa physionomie étaient toujours dans cet état d'excitation nerveuse dont nous avons parlé. Avec des dehors si avantageux, le major se flattait d'attirer l'attention de Miss Tox, et la supposition gratuite que c'était une belle femme et qu'elle l'honorait d'une œillade chatouillait doucement son orgueil. Il l'avait donné à entendre plusieurs fois au club, au milieu de toutes les charmantes plaisanteries qu'il faisait sans cesse sur son propre nom. Tantôt il s'appelait le vieux Joe Backstock ou le vieux José Backstock, tantôt le vieux J. Backstock ou encore le vieux Joseph Backstock, car le fort du major, ou pour mieux dire son éternel dada, c'était de se permettre une foule de familiarités cavalières avec le nom qu'il portait. « José Backstock, monsieur, disait le major en faisant tournoyer sa canne, en avalerait 12 comme vous. Si vous aviez un peu plus de sang de Backstock dans les veines, monsieur, cela n'en vaudrait que mieux. Le vieux Joe, monsieur, n'aurait pas loin à aller pour trouver une femme, même en ce moment, s'il voulait se marier. Mais il a le cœur solide, ce Joe. » « Oui, monsieur, il est solide et diablement fin. » Après cette préface, il se mettait à siffler et son teint passait du rouge au pourpre, tandis que ses yeux roulaient convulsivement dans leurs orbites comme s'ils eussent voulu déménager. Malgré les louanges qu'il se prodiguait, le major avait un défaut. Il était égoïste, si égoïste que l'on pouvait douter de trouver jamais une personne plus égoïste de cœur ou plutôt d'estomac, car il avait beaucoup plus de l'un que de l'autre. Il ne supposait pas qu'il pût être négligé ou dédaigné par qui que ce fût, et bien moins par Miss Tox que par tout autre. Et pourtant, Miss Tox, suivant toute apparence, l'oubliait. Oui, l'oubliait tout doucement. Elle avait commencé à l'oublier le jour où elle avait fait la découverte des Toodles. Elle continua à l'oublier à l'occasion du baptême, et s'habitua ensuite à l'oublier de plus en plus, en laissant accumuler les intérêts des intérêts. Évidemment, il y avait quelqu'un ou quelque chose qui l'avait supplanté dans son esprit. « Bonjour, madame, » dit le major en rencontrant Miss Tox sur la place de la princesse, quelques semaines après les événements racontés dans le dernier chapitre. « Bonjour, monsieur, » répondit Miss Tox très froidement. « José Backstock, madame, » dit le major avec sa galanterie accoutumée, n'a pas eu le bonheur depuis un temps immémorial de vous saluer à votre fenêtre. José est bien maltraité, madame. Son étoile a pâli. » Miss Tox s'inclina, mais toujours avec la même froideur. « Peut-être le fanal de Joe avait-il quitté la ville ?» demanda le major. « Moi, avoir quitté la ville ? Oh non, je n'ai pas quitté la ville, » dit Miss Tox. « J'ai seulement été très occupé ces derniers temps. Presque tous mes moments sont consacrés à des amis très intimes. Je n'ai pas un instant à perdre, même à présent. J'ai bien l'honneur de vous saluer, monsieur. » Et Miss Tox, de sa démarche la plus séduisante, disparut de la place de la princesse. Le major la suivit des yeux, le visage plus rouge que jamais, et se permit entre ses dents quelques remarques qui n'étaient pas des plus flatteuses. « Le diable m'emporte, monsieur !» dit le major en roulant ses yeux de homard tout autour de la place et s'adressant à l'air embaumé qu'on y respirait. « Il y a 6 mois, cette femme aimait à rencontrer ici Joseph Backstock. Qu'est-ce que cela signifie ?» Le major, après avoir mûrement réfléchi, décida dans son esprit qu'il devait y avoir là-dessous quelques pièges. Miss Tox certainement tramait, complotait, préparait quelques traquenards. « Mais on n'attrapera pas José, madame. Il est solide, madame. Il est solide. Joe Backstock est diablement fin. » Cette réflexion le tint en bonne humeur tout le reste du jour. La journée se passa cependant, et bien d'autres encore, sans que Miss Tox s'inquiétât du major ou y pensât le moins du monde. Elle avait eu l'habitude, autant jadis, de regarder par une de ses petites croisées sombres, comme par hasard, et de répondre en rougissant au salut du major. Mais depuis, elle ne lui accordait plus aucune de ces heureuses occasions, et ne semblait pas même s'apercevoir s'il regardait ou non de l'autre côté de la rue. Il est vrai qu'il s'était passé depuis ce temps-là bien des choses. protégé par l'obscurité de son appartement, le major put remarquer que la demeure de Miss Tox avait pris une apparence plus élégante. Le vieux petit serin habitait maintenant une cage neuve aux barreaux dorés. Divers ornements de carton ou de papier colorié ornaient les tables et la cheminée. Un vase de fleurs, quelquefois deux, avait apparu derrière la croisée. Enfin, Miss Tox faisait entendre de temps en temps des études sur cette harpe dont la guirlande de pois de senteur était mise en vue avec plus de faste que jamais et qui se trouvait couronnée d'un livre de musique, les valses de Copenhague, la polka des oiseaux, copiée de la main même de Miss Tox. Ce qu'il y avait de plus remarquable encore, c'est que Miss Tox, depuis quelque temps, portait un demi-deuil des plus coquets. Cette dernière circonstance finit par aider le major à résoudre le problème. Miss Tox, bien certainement, avait fait un petit héritage qui l'avait rendu fier. Le lendemain du jour où le major Bagstock avait calmé l'agitation de son esprit par cette solution, il était en train de déjeuner quand il vit dans le petit salon de Miss Tox une apparition étrange, incroyable. La stupéfaction le cloua sur sa chaise pendant quelques instants. Mais tout à coup il se lève, s'élance d'un bond dans la chambre voisine et revient, muni d'une jumelle qu'il braque quelques minutes sur l'apparition. « C'est un enfant, monsieur, » dit le major, après quelques minutes d'attention et fermant sa lorgnette. « Je parie 1 000 000. » Le major n'en revenait pas. Il se mit à siffler et son regard exprimait un tel ébahissement que ses yeux d'autrefois étaient graves et mornes, comparés à ceux qu'il roulait en ce moment. Le lendemain, le surlendemain, 2 fois, 3 fois, 4 fois la semaine, il revit le même enfant. Le major continuait à siffler et à rouler ses grands yeux. Il se promenait solitaire sur la place de la princesse, mais ce n'était plus pour les mêmes motifs qu'autrefois. Miss Tox ne prenait plus garde à lui. Il aurait pu passer du rouge au noir, que Miss Tox s'en serait fort peu inquiétée. En vérité, l'activité de Miss Tox était incroyable. Elle ne faisait que traverser la place de la princesse pour aller chercher l'enfant et la nourrice. Ou bien elle revenait avec eux, rentrait chez elle avec eux, montait une garde perpétuelle pour veiller sur eux. Avec la même persévérance encore, elle soignait elle-même l'enfant, le caressait, cherchait à l'amuser ou rafraîchissait son jeune sang, avec des airs variés sur sa harpe. À la même époque aussi, elle fut prise de la manie de regarder un certain bracelet. Quelque temps après, ce fut la lune qui la tenait rêveuse des heures entières à sa croisée. Mais elle avait beau regarder le soleil, la lune, les étoiles et son bracelet, elle ne regardait plus le major. Le major, cependant, sifflait, roulait ses grands yeux, passait d'étonnement en étonnement, et marchait à grands pas dans sa chambre, sans pouvoir s'expliquer la chose. Vous finirez bien certainement, ma chère amie, par gagner le cœur de mon frère, dit un jour Madame Chick à Miss Tox. Miss Tox pâlit. Il ressemble chaque jour davantage à Paul, ajouta Madame Chick. Miss Tox ne répondit rien, mais elle prit Paul, le petit, dans ses bras, et le serra si fort contre son cœur que le chou du joli bonnet en fut tout chiffonné et tout aplati. « Ma chère, dit Miss Tox, ressemble-t-il à sa mère, dont vous deviez me faire faire la connaissance ?»« Pas du tout, répondit Louisa. « Elle était jolie, je crois, balbutia Miss Tox. « Oh, la pauvre Fanny était intéressante, dit Madame Chick avec un peu de réflexion. « Oui, elle était intéressante. » Mais elle n'avait pas cette dignité imposante qu'on aurait dû s'attendre naturellement à trouver dans la femme de mon frère. Elle n'avait ni cette vigueur, ni cette énergie qui convient à la femme d'un tel homme. Miss Tox poussa un profond soupir. « Mais elle était agréable, » reprit Madame Chick, « très agréable, et elle avait des intentions excellentes. »« Bon petit ange, » dit Miss Tox, s'adressant au petit Paul, « vrai portrait de votre père. » Oh, quels yeux aurait ouvert le major s'il avait pu savoir tout ce qu'on fondait d'espérance sur la tête de cet enfant, tout ce qu'on formait de dessins, de projets. Comme il fut resté ébahi s'il avait pu voir tous ses rêves voltiger, confus et désordonnés autour du petit bonnet tout froissé de l'enfant bien insensible à ses émotions. Au milieu de cette confusion, il aurait pu découvrir sans peine, dans l'œil de son ambitieuse voisine, quelques pailles, peut-être quelques poutres, qui l'auraient aidé à comprendre la nature du placement incertain que la dame faisait de son affection dans la maison d'Ombay. Si l'enfant, en se réveillant dans la nuit, avait vu, groupés dans les plis de ses petits rideaux, les reflets des rêves dont il était l'occasion, il en aurait tremblé, et il eut eu raison, mais il dormait profondément, sans songer ni aux intentions charitables de Miss Stocks, ni à la surprise du major, ni au chagrin prématuré de sa sœur, ni aux vues sérieuses de son père. Il dormait, et ne se doutait guère qu'il existait dans quelque coin de la terre une maison d'Ombay et fils. Chapitre 8. Paul continue à grandir et à se développer. Son caractère. Sous les yeux attentifs et vigilants du temps, major bien autrement sévère, les nuits de Paul changèrent peu à peu. Elles ne furent plus aussi obscures. Des rêves de plus en plus distincts les agitèrent. Une foule d'objets et d'impressions vinrent animer son repos. Ce fut ainsi qu'il passa de la première enfance à la seconde, et devint un d'Ombay jasant, marchant et regardant. Depuis la disgrâce et le bannissement de Richard, l'administration de la chambre des enfants avait été confiée à une commission. Comme il arrive quelquefois à un ministère public, quand on n'a pas encore trouvé l'atlas aux larges épaules qui doit emporter le fait. Les membres de la commission, comme de juste, furent Madame Chick et Miss Stocks, et toutes deux remplirent leur emploi avec un tel zèle que le major Bagstock put s'apercevoir chaque jour davantage de son abandon, et que M. Chick, privé de la douce surveillance de sa femme, se jeta à corps perdu dans le tourbillon des plaisirs. Il dînait dans les clubs, dans les cafés. Deux ou trois fois, il avait senti le tabac. Il allait seul au théâtre. Bref, comme Mme Chick le lui dit un jour, il brisait tous les liens de la société et violait toutes les lois de la morale. Cependant, en dépit de ses premières promesses, tant de soins et de vigilance ne pouvaient faire de Paul un enfant robuste. Déjà naturellement délicat, il s'affaiblit et dépérit après le renvoi de sa nourrice. Pendant longtemps même, il sembla n'attendre qu'une occasion pour leur glisser entre les doigts et pour aller rejoindre sa défunte mère. Ce dangereux passage dans la vie d'un enfant, cette étape du steeplechase qui l'entraîne vers l'âge viril, fut pourtant surmonté, mais il fut difficile à franchir et marqué dans sa course par une foule d'obstacles. Chaque dent qui perçait était un casse-cou, chaque petit bouton de rougeole était un mur inexpugnable. Il était abattu par la moindre atteinte de coqueluche, ballotté, anéanti par toute une conjuration de petits malaises qui se pressaient sur les pas l'un de l'autre sans interruption, comme pour l'empêcher de se remettre. Les aftes le saisissaient à la gorge et ne voulaient plus lâcher leur proie, et la variole, malgré son nom doux et engageant, devenait pour lui d'une férocité inquiétante. Le froid de son baptême avait glacé peut-être quelques parties sensibles de son être, et ce n'est pas à l'ombre de son père qu'il pouvait se réchauffer. Ce qui est bien certain, c'est qu'à partir du jour de son baptême, il fut toujours maladif, et Madame Wickham ne manquait pas de répéter souvent qu'elle n'avait vu de sa vie un pauvre petit martyr comme celui-là. Madame Wickham était la femme d'un garçon de café, ce qui revenait à être veuve. On l'avait jugée très convenable pour le service de M. d'Ombay, car elle semblait n'avoir ni amis ni connaissances, et partant, on n'avait à craindre ni les visites ni les sorties. Aussi fut-elle prise comme bonne d'enfant 2 jours après le malheureux sevrage de Paul. Madame Wickham était une femme douce et blonde. Ses sourcils étaient toujours levés, sa tête toujours baissée, toujours prête à se plaindre, se faire plaindre ou plaindre le prochain. Elle avait reçu de la nature un talent surprenant pour envisager les choses toujours sous leur plus mauvais côté, sous leur jour le plus sombre, et c'était dans l'exercice de ce talent qu'elle trouvait sa plus grande consolation. Il est presque inutile de dire que jamais l'esprit majestueux de M. d'Ombay ne s'abaissa jusqu'à daigner remarquer cette particularité. Au reste, il eût été bien étonnant qu'il en eût eu connaissance quand personne dans la maison, pas même Madame Chick, pas même Miss Tox, n'avait jamais osé lui faire entendre, dans aucune circonstance, qu'on pût avoir quelque inquiétude sur la santé de Paul. M. Dombey s'était dit qu'un enfant ne pouvait éviter certaines petites maladies qui sont inséparables de son âge et que plus tôt elle se déclarerait, plus tôt il en serait quitte. S'il avait pu les lui épargner à prix d'argent ou lui donner un remplaçant, comme pour le service militaire quand on a tiré un mauvais numéro, il l'aurait fait certainement sans marchander. Mais il y avait là impossibilité. Et M. Dombey, du haut de son orgueil, s'était simplement demandé quelquefois quelle pouvait être en cela l'intention de la nature. Puis il se consolait à chaque maladie en pensant que son fils avait franchi sur la route une nouvelle borne qui le rapprochait d'autant plus du terme de son voyage. Le sentiment qui le dominait et qui devenait plus fort et plus violent à mesure que Paul grandissait était l'impatience. L'impatience d'arriver à ce jour où ses vues d'importance et de grandeur serait réalisée d'une manière triomphante par son association avec son fils. Quelques philosophes prétendent que l'amour-propre se trouve toujours au fond de l'amour le plus vif et des affections les plus sincères. Le petit Paul, au moment même de sa naissance, était devenu pour M. Dombey une partie de sa propre grandeur, ou, ce qui revient au même, une partie de la grandeur de la maison Dombey et fils. Aussi, sa tendresse paternelle ressemblait-elle à ces grandes réputations dont souvent l'édifice magnifique repose sur des fondements peu solides. Cependant, il aimait son fils de tout l'amour dont il était capable. S'il y avait dans son cœur glacé un petit coin de chaleur, c'était là qu'habitait son fils. Si une image pouvait se graver dans ce bronze, c'était celle de son fils, non pas celle de son fils enfant ou adolescent, mais celle de son fils devenu homme, de Paul devenu le fils de la maison de commerce. Aussi M. Dombey avait-il hâte d'aller en avant et de passer rapidement par-dessus tous les petits incidents de sa vie. Malgré sa tendresse pour son fils, il se tourmentait peu de tout ce qui lui arrivait, ou même n'y songeait pas. On eût dit que la vie de l'enfant était enchantée et qu'il deviendrait, malgré tous les obstacles, l'homme de ses rêves, l'homme pour lequel il formait sans cesse de nouveaux plans, de nouveaux projets, comme s'il eût été maître de l'avenir. Paul parvint ainsi à l'âge de 5 ans. C'était un joli petit garçon, mais il y avait dans sa petite figure quelque chose de trop avancé et de trop réfléchi pour son âge. Aussi, Mme Wickham remuait-elle souvent la tête d'un air significatif en poussant de profonds soupirs. Il promettait d'être impérieux plus tard, et semblait aussi pénétré qu'on pouvait le désirer du sentiment de son importance. Il comprenait déjà combien choses et gens étaient au-dessous de lui. Il était quelquefois assez enfant, assez gai, et tout disposé à s'amuser. Mais quelquefois aussi, il avait un air singulier, tout vieillot, tout pensif, quand il s'asseyait pour rêver dans son petit fauteuil nain. Il ressemblait alors à ces êtres fantastiques qu'un seul coup de baguette a transformés, d'enfants qu'ils étaient, en petits vieux de 150 ou 200 ans. Souvent, dans sa chambre, il était pris de ces accès de mélancolie rêveuse. Quelquefois, il y tombait tout à coup, en s'écriant qu'il était fatigué, interrompant ses jeux avec Florence, ou laissant là Miss Tox, qui faisait le dada pour l'amuser. Mais c'était surtout après le dîner, quand on avait descendu son petit fauteuil dans la chambre de son père, qu'assis près de lui devant le feu, il s'abandonnait à ses rêveries. C'étaient bien alors les deux êtres les plus étranges que jamais eût éclairé la flamme du foyer. M. Dombey, si roide et si grave, regardant fixement le feu, sa petite miniature, avec sa vieille, vieille petite figure, les yeux fixés sur le charbon ardent, dans l'attitude sérieuse et réfléchie d'un sage. M. Dombey, l'esprit toujours occupé des choses d'ici-bas, formait 1000 projets, 1000 plans pour l'avenir. Sa petite miniature, transportée Dieu sait dans quel monde imaginaire, s'égarait dans des pensées à peine ébauchées, dans les songes les plus fugitifs. M. Dombey, roide d'empois et d'arrogance, l'enfant roide aussi, mais par héritage et par imitation involontaire. Quelle ressemblance, et pourtant quel prodigieux contraste! Un soir qu'ils étaient restés tous deux silencieux pendant assez longtemps, et que M. Dombey s'était assuré plusieurs fois que l'enfant ne dormait pas, en voyant la flamme briller comme une topaze dans ses yeux, le petit Paul rompit tout à coup le silence et dit « Papa, qu'est-ce que l'argent ?» Cette question, faite à l'improviste, avait tant de rapport avec les pensées de M. Dombey qu'il resta interdit. « Ce que c'est que l'argent, Paul ?» répondit-il. « L'argent ?»« Oui, » dit l'enfant, posant ses mains sur les deux bras de son petit fauteuil et levant sa petite figure vieillotte vers M. Dombey. « Qu'est-ce que l'argent ?» M. Dombey était embarrassé. Il aurait voulu lui donner une définition comprenant les termes « agent monétaire »,« monnaie », »,« billet », »,« lingot », »,« taux de l'escompte », »,« prix des valeurs métalliques sur la place » et le reste. Mais après avoir jeté un coup d'œil sur le petit fauteuil et voyant combien il était bas, il répondit simplement « C'est de l'or, de l'argent, du cuivre, des guinées, des shillings, des sous. Vous connaissez tout cela ?»« Oui, » répondit Paul, « ce n'est pas cela que je veux dire, papa. Je veux savoir ce que c'est que l'argent, après tout. » Dieu, comme sa figure était vieille quand il la tourna encore vers son père. « Ce que c'est que l'argent, après tout ?» dit M. Dombey tout surpris, en reculant un peu son siège pour mieux voir cet orgueilleux atome qui osait faire une telle question. « Je veux savoir, papa, ce qu'il peut faire, » reprit Paul en croisant ses bras, à peine assez longs pour se croiser, et portant ses regards du feu à son père, de son père au feu, pour les arrêter enfin sur M. Dombey. Celui-ci rapprocha son fauteuil de l'enfant et lui dit, en lui donnant une petite tape sur la joue, « Vous l'apprendrez en grandissant, mon petit homme. L'argent peut tout, Paul. » Et il prit une des mains de l'enfant qu'il frappa légèrement dans la sienne. Mais Paul la dégagea le plus vite possible, et, la passant et repassant doucement sur le bras de son fauteuil, on eût dit que son intelligence était dans la paume de sa main et qu'il voulait ainsi l'aiguiser. Il regarda encore le feu comme pour lui demander un conseil ou une réplique et répéta après un moment de silence « Il peut tout, papa ?»« Oui, tout, ou presque tout, » dit M. Dombey. « Tout veut dire chaque chose, n'est-il pas vrai, papa ?» demanda l'enfant sans remarquer ou sans comprendre la restriction de son père. « Certainement, » dit M. Dombey, « ce seul mot comprend toute chose. Pourquoi donc l'argent n'a-t-il pas sauvé maman ?» reprit l'enfant. « Il est donc bien cruel, » dites. « Cruel ?» dit M. Dombey, arrangeant sa cravate et voulant repousser cette pensée. « Non, non, une bonne chose ne peut être cruelle. »« Si c'est une bonne chose, qui peut tout faire ?» dit le petit garçon tout pensif, en reportant ses yeux vers le feu. « C'est bien étonnant qu'il n'ait pas sauvé maman. » Cette fois, il n'interrogeait plus son père. Peut-être, avec l'intelligence naturelle aux enfants, s'était-il aperçu que cette question l'embarrassait. Mais il avait répété tout haut sa pensée, comme si elle lui eût été depuis longtemps familière et qu'elle l'eût souvent troublée. Puis il appuya son menton sur sa main et se mit à réfléchir en demandant au feu une réponse. M. Dombey revint peu à peu de sa surprise, pour ne pas dire de sa terreur. Car c'était la première fois que l'enfant lui parlait de sa mère, et pourtant ils avaient déjà passé ainsi ensemble bien des soirées. Il expliqua alors à l'enfant comment l'argent, malgré toute sa puissance vivifiante, qu'il faut bien se garder de mépriser, ne peut cependant conserver la vie aux personnes qui doivent mourir. Car, malheureusement, lui dit-il, nous devons tous mourir, même dans la cité, où l'on est plus riche que partout ailleurs. Mais l'argent nous procure les grands honneurs. Il nous fait craindre, respecter, courtiser, admirer, et nous rend puissants et illustres aux yeux du monde entier. Souvent même, il peut nous sauver l'existence pendant de longues années. C'est grâce à ma fortune que votre maman a été souvent soignée par M. Pilkins, qui, bien souvent aussi, a pris soin de vous. C'est grâce à ma fortune que j'ai pu appeler auprès de votre maman le célèbre docteur Parker, que vous n'avez jamais connu. Enfin, Paul, l'argent peut faire tout ce qu'il est possible de faire. » Et M. Dombey, développant ce thème, chercha à l'inculquer plus fortement dans l'esprit de son fils, qu'il écoutait attentivement et paraissait comprendre la majeure partie de ce qu'il lui disait. « La fortune ne peut pas me rendre fort et bien portant, n'est-ce pas, papa ?» demanda Paul, après un moment de silence, en frottant l'une contre l'autre ses pauvres petites mains. Mais vous êtes fort et bien portant, il me semble, répondit M. Dombey. Oh, qui aurait pu dire l'âge de l'enfant quand il leva vers son père sa figure moitié triste, moitié railleuse. Vous êtes aussi fort, aussi bien portant que tous les enfants de votre âge, je crois, répéta M. Dombey. Florence est plus âgée que moi, mais je ne suis pas aussi fort et aussi bien portant que Florence, je le sais bien, répondit l'enfant. Je suis sûr que Florence, quand elle n'était pas plus grande que moi, pouvait jouer bien plus longtemps de suite que moi sans se fatiguer. Je suis si fatigué quelquefois, dit le petit Paul en se chauffant les mains et regardant attentivement à travers les barres de la grille, comme s'il eût découvert là, derrière, quelques marionnettes fantastiques. Et mes os me font tant souffrir, Wickham dit que ce sont mes os, que je ne peux rien faire. Mais c'est le soir, dit M. Dombey, en s'approchant tout près de son fils et posant doucement sa main sur son épaule. Il est bon que les enfants soient fatigués le soir, ils n'endorment que mieux. Oh, ce n'est pas le soir, papa, répondit l'enfant, c'est pendant le jour. Florence me prend alors sur ses genoux et me chante des chansons. Mais la nuit, je fais des rêves si drôles, si drôles. Et il continua à penser à ses rêves, tout en chauffant ses mains comme un bon petit vieux ou comme un jeune farfadet. M. Dombey était surpris, mal à son aise et incapable de poursuivre la conversation. Il regarda seulement son fils à la clarté du feu et laissa sa main posée sur son épaule comme si une attraction magnétique l'y eût retenu. Une fois, de son autre main, il tourna vers lui la figure pensive de l'enfant. Mais la figure retourna bientôt vers le feu quand il la laissa libre, et resta ainsi absorbé dans la contemplation de la flamme vacillante jusqu'au moment où la bonne vint le chercher pour le coucher. « Il faut que Florence vienne me chercher, » dit Paul. « Comment ? Vous ne voulez pas venir avec votre pauvre Wickham, monsieur Paul ?» demanda la bonne en affectant un air tout désolé. « Non, je ne veux pas, » répondit Paul, et il prit dans son petit fauteuil l'attitude du maître de la maison. Madame Wickham se retira, recommandant à Dieu le pauvre innocent, et Florence parut bientôt à sa place. Paul se leva vivement et sans hésiter, et sa physionomie, en souhaitant le bonsoir à son père, avait pris une expression si gaie, si jeune, si enfant, en comparaison de ce qu'elle était, que M. Dombey, tout en se sentant rassuré par ce changement, ne put s'empêcher d'en être surpris et frappé. Quand ils eurent quitté la chambre tous les deux, il crut entendre une douce voix qui chantait. Se rappelant ce que lui avait dit Paul des chansons de sa sœur, il eut la curiosité d'ouvrir la porte pour écouter et les regarder. Florence avait pris l'enfant dans ses bras et montait péniblement le grand escalier, large et vide. La tête de Paul était appuyée sur l'épaule et un de ses bras pendait négligemment autour du cou de sa sœur. Il s'en allait ainsi, montant avec peine, Florence chantant et Paul quelquefois joignant à sa chanson un accompagnement débile. M. Dombey est vite arrivé à la dernière marche de l'escalier, non sans s'être arrêté plus d'une fois en route. Puis il les perdit de vue. Mais il resta immobile à la même place, les cherchant encore du regard, tandis qu'enfin les faibles rayons de la lune, glissant tristement à travers les vitres obscurcies, vinrent lui rappeler qu'il était temps de rentrer chez lui. Le lendemain, au dîner, Madame Chick et Miss Tox furent convoquées pour tenir conseil, et quand la nappe fut retirée, M. Dombey ouvrit la séance. Il demanda qu'on voulût bien lui dire, sans commentaire et sans arrière-pensée, si Paul n'avait pas quelque chose, et ce que M. Pilkins pensait de son état. « Car cet enfant, dit M. Dombey, est loin d'être aussi fort que j'aurais pu le souhaiter. » « Avec votre tact habituel, mon cher Paul, répondit Madame Chick, vous avez touché juste. Non, le cher enfant n'est pas tout à fait aussi fort que nous l'aurions désiré. Il a vraiment trop d'esprit pour son âge. Son âme est à l'étroit dans son petit corps. Il cause, le cher petit, dit Madame Chick en secouant la tête, c'est à n'y pas croire. Vous rappelez-vous, Lucrèce, ce qu'il nous disait hier encore au sujet des funérailles ?»« Je crains, dit M. Dombey, en l'interrompant brusquement, que quelqu'un là-haut ne tienne à l'enfant des discours qui ne conviennent pas. L'autre soir, il me parlait de ses os, dit M. Dombey, en appuyant sur ce mot d'un ton irrité. qu'est-ce qu'on peut avoir à démêler, je vous prie, avec les os de mon fils ? Paul n'est pas un squelette vivant, j'imagine. Loin de là, répondit Madame Chick avec une vivacité inexprimable. Je l'espère, reprit Monsieur Dombey. Que signifient aussi ces réflexions sur les funérailles ? Qui peut parler à l'enfant des funérailles ? Nous ne sommes pas, que je sache, entrepreneurs de pompes funèbres, croque-morts ni fossoyeurs. Oh, loin de là, dit Madame Chick avec la même ardeur d'expression. Mais alors, qui donc lui met de telles idées en tête ? Dit Monsieur Dombey. Vraiment, hier soir, j'en ai été contrarié et blessé cruellement. Qui donc, encore une fois, peut lui mettre de telles idées dans la tête, Louisa ? Mon cher Paul, dit Madame Chick après un moment de silence, il est inutile de le demander. Franchement, je ne vois pas Wickham fort gay. Elle ne me paraît pas une de ces personnes qu'on peut appeler une fille de Momus, dit Miss Tox de sa voix douce. C'est bien cela, dit Madame Chick. Mais Wickham est rempli de soins et d'attention et ne cherche pas à se faire valoir. Jamais je n'ai vu une femme aussi convenable. Si le cher enfant, poursuivit Madame Chick, du ton d'une personne qui parle d'une chose convenue, quand elle en parlait cependant pour la première fois, si le cher enfant a été un peu affaibli par sa dernière maladie, s'il n'est pas d'une aussi bonne santé qu'on peut le souhaiter, s'il est sujet parfois à certaines faiblesses qui puissent lui faire perdre pour un moment l'usage de ses... Madame Chick n'osa pas employer le mot « membre » après avoir entendu M. Dombey se récrier sur les os de son fils et se tournant vers Miss Tox, elle attendit d'elle une heureuse inspiration. Celle-ci n'y arriva pas et souffla le mot « articulation ». « De ses articulations !» répéta M. Dombey. « Ah, je me trompe. Il me semble, ma chère Louisa, dit Miss Tox, que le docteur avait parlé ce matin de ses jambes, n'est-ce pas ?»« Mais oui, ma bonne amie, reprit Madame Chick d'un ton de doux reproche. Comment pouvez-vous le demander ? Vous l'avez entendu comme moi. Je disais donc que si notre cher Paul devait perdre pour un temps l'usage de ses jambes, c'est un mal qui lui serait commun avec beaucoup d'autres enfants de son âge, et que ni les soins ni les précautions ne seraient empêchés. Il vaut mieux que vous en soyez informé, plus tôt que plus tard, mon cher Paul. Vous savez certainement, Louisa, dit M. Dombey, que je ne mets pas en doute votre dévouement, votre intérêt pour cet enfant qui sera un jour à la tête de ma maison. M. Pilkins a vu Paul ce matin, je crois, dit M. Dombey. Oui, il l'a vu ce matin, répondit sa sœur. Miss Tox et moi, nous étions présentes, car nous nous faisons un devoir d'assister toujours aux visites du docteur. M. Pilkins l'examine depuis plusieurs jours. C'est un homme que je crois fort habile. Il dit que cela ne vaut pas la peine d'en parler, et si cela peut vous rassurer, je vous dirai que je partage son avis. Cependant, aujourd'hui, il a recommandé l'air de la mer. C'est, j'en suis persuadé, Paul, un bon conseil à suivre. L'air de la mer, répéta M. Dombey en regardant sa sœur. Il n'y a pas là de quoi se tourmenter, dit Madame Chick. L'air de la mer a été ordonné de même à mon Georges et à mon Frédéric quand ils avaient son âge. Moi-même, on me l'a ordonné plusieurs fois. Je conviens avec vous, Paul, qu'on parle souvent là-haut, devant lui, de choses sur lesquelles il vaudrait mieux ne pas égarer sa petite intelligence. Mais je ne vois pas comment on pourrait éviter cela avec un enfant aussi avancé. Si c'était un enfant ordinaire, cela ne ferait rien du tout. Je dois vous avouer notre avis à Miss Tox et à moi. Une courte absence de la maison, l'air de Brighton et l'éducation physique et morale donnée par une personne aussi judicieuse que Madame Pipchin, par exemple. « Qu'est-ce que Madame Pipchin, Louisa ?» demanda Dombey tout effrayé d'entendre prononcer devant lui, d'une manière si familière, un nom qu'il ne connaissait seulement pas. « Madame Pipchin, mon cher Paul, répondit Madame Chick, est une femme d'un âge respectable. Miss Tox connaît son histoire tout entière, qui s'est appliquée depuis quelque temps, avec toute l'énergie de son caractère, et avec le plus grand succès, à l'étude des maladies des enfants et à leur traitement, et qui a toujours eu les plus belles relations. Son mari s'est brisé le cœur en... Comment m'avez-vous raconté cela, ma chère amie ? Je ne me rappelle plus les détails précis. En pompant l'eau des mines du Pérou, répliqua Miss Tox. Ce n'était pas un ouvrier, comme vous pensez bien, dit Madame Chick en regardant son frère. Et vraiment, cette explication était nécessaire, car Miss Tox avait parlé de Monsieur Pipchin comme s'il était mort la main sur la pompe. Mais il avait mis toute sa fortune dans cette spéculation qui a manqué. Madame Pipchin s'entend aux enfants d'une manière surprenante. Je l'ai entendu vanter, il y a bien longtemps, dans des réunions particulières, quand j'étais hôte, comment dirais-je. Et les yeux de Madame Chick, cherchant une comparaison, s'égarèrent des premiers rayons de la bibliothèque jusqu'au buste de Monsieur Pitt, qui était à peu près à 10 pieds de haut. Peut-être me permettez-vous de dire de Madame Pipchin, mon cher monsieur, dit Miss Tox en rougissant timidement, puisqu'on s'en rapporte si positivement à mon témoignage, qu'elle mérite à tous égards les éloges que lui a donnés votre bonne sœur. Bien des dames, bien des messieurs, devenus maintenant des membres intéressants de la société, ont eu recours à ses soins. Votre humble servante, qui vous parle en ce moment, lui a été confiée autrefois. La noblesse elle-même, je le crois, ne dédaigne pas de former ses enfants dans cet établissement. Cette respectable dame tient donc un établissement, Miss Tox, demanda M. Dombey d'un ton assez bienveillant. Je ne sais pas trop si j'ai raison d'appeler cela un établissement, répondit Miss Tox. Ce n'est pas à coup sûr une école préparatoire. Peut-être, continua Miss Tox de sa voix la plus douce, rendrai-je mieux mon idée en disant que c'est une pension d'élite destinée aux enfants du premier âge. Sur une échelle extrêmement restreinte et limitée, dit Madame Chick, en lançant un coup d'œil à son frère. Si limitée qu'elle ne reçoit presque personne, dit Miss Tox. Il y avait du bon là-dedans. Le mari de Madame Pipchin était mort de s'être brisé le cœur dans les mines du Pérou. C'était très intéressant. Cela sonnait bien à l'oreille. En outre, M. Dombey était presque consterné en songeant que Paul eût pu rester une heure de trop dans la maison quand le docteur avait ordonné qu'il la quittât. C'était un temps d'arrêt, un retard sur la route que l'enfant devait suivre et qu'il devait suivre lentement sans doute avant d'atteindre le but. La recommandation de Madame Chick et de Miss Tox en faveur de Madame Pipchin était d'un grand poids auprès de lui. Il savait combien elles étaient jalouses de l'autorité qui leur était dévolue sur l'enfant, et il ne lui vint pas même à l'idée qu'elles pussent désirer de partager avec d'autres une responsabilité sur laquelle il avait ses idées bien arrêtées, comme il venait de le témoigner au même moment. Mourir, le cœur brisé dans les mines du Pérou, faisait rêver M. Dombey. Vraiment, c'était une manière respectable de faire la chose. En supposant qu'après avoir pris demain matin toutes les informations nécessaires, nous nous décidions à envoyer Paul à Brighton chez cette dame, qui est-ce qui l'accompagnerait ? Demanda M. Dombey après avoir réfléchi un moment. Je ne pense pas que vous puissiez envoyer l'enfant nulle part sans Florence, mon cher Paul, dit Madame Chick en hésitant un peu. Vous savez qu'il l'aime à la folie. Que voulez-vous ? C'est un enfant. Il a ses fantaisies. M. Dombey détourna la tête, alla lentement à la bibliothèque, l'ouvrit et en rapporta un livre. « Et personne d'autre, Louisa ?» dit M. Dombey, sans lever les yeux en feuilletant le livre. « Wickham, cela va sans dire. Wickham suffira parfaitement, » répondit Madame Chick. En laissant Paul entre les mains de Madame Pipchin, ce serait porter ombrage à cette bonne dame que d'y envoyer une autre personne. « Et puis, vous ne manquerez pas d'aller le voir vous-même, au moins une fois la semaine. »« Certainement, » dit M. Dombey, et il resta assis devant la même page pendant une heure, sans en lire un seul mot. Cette célèbre Madame Pipchin était une vieille dame singulièrement disgraciée de la nature et d'une laideur repoussante. Elle avait le corps voûté, la figure toute marbrée, un nez de perroquet et un œil gris si dur qu'on aurait pu le forger sur une enclume sans qu'il en souffrît. Il y avait au moins 40 ans que les mines du Pérou avaient causé la mort de M. Pipchin. Mais sa veuve inconsolable portait encore une robe d'alépine noire terne, épaisse, sans ornement, si sombre enfin que le soir le gaz laissait Mme Pipchin dans l'obscurité et que sa seule présence pouvait servir d'éteignoir à un nombre indéterminé de lumières. Elle était généralement réputée comme une femme d'un grand talent pour diriger les enfants, et le secret de ce talent consistait simplement à faire tout ce qui leur déplaisait, sans jamais rien faire de ce qui leur était agréable. C'était, selon elle, un moyen infaillible de leur former le caractère. Elle était si sèche qu'on était vraiment disposé à croire qu'il y avait eu erreur dans l'emploi des machines hydrauliques du Pérou, et qu'au lieu des mines, c'était elle qu'on avait mise à sec en lui tirant tout ce qu'elle pouvait avoir d'amabilité, de douceur et de bonté. Le château de cette ogresse, véritable bourreau des enfants, se trouvait à Brighton, dans une rue écartée et montante, dont le terrain était crayeux, pierreux et stérile. Les maisons plus minces et plus fragiles que partout ailleurs. Les petits jardins qu'on voyait devant les façades avaient la singulière propriété de ne produire que des soucis. Quelles que fussent les graines qu'on y eût semées, et sur toutes les portes, sans parler de bien d'autres endroits, où ils ne servaient guère d'ornement, des colimaçons restaient attachés avec la ténacité d'une ventouse. Pendant l'hiver, le vent s'engouffrait dans le château sans qu'on pût l'en chasser, et pendant l'été, on ne pouvait l'y garder. Mais il y faisait toujours un tel bruit que les habitants croyaient tenir à leurs oreilles, bon gré mal gré, un grand coquillage de mer qui bourdonnait la nuit comme le jour. L'air qu'on respirait dans la maison n'était pas des plus agréables. Dans l'embrasure de la fenêtre du petit salon, fenêtre qui ne s'ouvrait jamais, Madame Pipchin conservait en pot une collection de boutures qui faisait participer tout l'établissement à leur odeur terreuse. Quoique ce fussent des individus de choix dans leur espèce, elles cadraient toutes parfaitement avec la forme gondolée de Madame Pipchin. Il y avait une demi-douzaine de variétés de cactus s'enroulant autour de morceaux de latte pour tuteurs et semblables à des serpents à tout crin. Un autre allongeait ses grandes griffes comme un homard vert. Des plantes rampantes se faisaient remarquer par leurs feuilles visqueuses et adhérentes. Au plafond était pendu un vieux vase délabré, d'où débordait à flots, comme l'eau d'une bouilloire trop pleine, une plante dont les longs bouts verts chatouillaient désagréablement les gens qui passaient en dessous. On croyait sentir des pattes d'araignée, car l'habitation de Madame Pipchin n'était pas chiche de ces insectes, quoiqu'elle fût peut-être plus prodigue encore de perce-oreilles dans la saison. Le tarif de Madame Pipchin était cependant très élevé pour tous ceux qui avaient le moyen de payer. Et son humeur acariâtre ne s'adoucissait jamais en faveur de personne. On la regardait comme une femme de grande fermeté et connaissant à fond le caractère des enfants. Grâce à cette réputation, et aussi à la fin malheureuse de M. Pipchin, elle était arrivée, bon an mal an, à se procurer une honnête aisance depuis la mort de son mari. 3 jours après la conversation de Madame Chick avec son frère, cette vieille et excellente dame eut la satisfaction de toucher de M. Dombey une somme assez ronde par avance qu'elle ajouta à ses recettes courantes en même temps qu'elle recevait Florence et son petit frère Paul comme pensionnaires. Madame Chick et Miss Tox, qui les avaient amenés la veille et qui avaient passé la nuit avec eux dans un hôtel, venaient de les quitter pour retourner à Londres. Madame Pipchin, le dos tourné au feu, passait en revue les nouveaux venus comme un vieux recruteur. La nièce de Madame Pipchin, bonne personne déjà d'un certain âge, esclave des volontés de sa tante, mais si maigre qu'elle n'avait que la peau sur les os, affligée en outre d'un nez tout couvert de bourgeons, était occupée à ôter au jeune Bitherstone le col tout blanc qu'on lui avait mis pour la circonstance. Miss Pankey, la seule autre pensionnaire pour le moment, qui s'était permis de renifler 3 fois devant les étrangers, avait été enfermé dans le donjon. C'était une grande chambre donnant sur le derrière du château et qui était destinée aux corrections. « Voyons, monsieur, » dit Madame Pipchin à Paul, « pensez-vous que vous m'aimerez un peu ?»« Je ne vous aimerai pas du tout, » répondit Paul. « Je veux m'en aller. Ce n'est pas ici ma maison. »« Non, car c'est la mienne, » dit Madame Pipchin. « Eh bien, elle est très laide, » reprit Paul. « Cependant, il y a ici un endroit encore bien plus vilain, » dit Madame Pipchin. « C'est celui où nous enfermons les petits garçons méchants. »« Est-ce qu'il y est allé, lui ?» demanda Paul en montrant du doigt Bitherstone. Madame Pipchin fit un signe de tête affirmatif, et Paul, pendant tout le reste de la soirée, ne perdit pas de vue le jeune Bitherstone. Il l'examinait de la tête aux pieds et surveillait tous les mouvements de sa physionomie avec l'intérêt que méritait un garçon qui avait passé par de terribles et mystérieuses épreuves. À 1 heure, on dîna. Le repas se composait surtout de farineuses et de légumes. Miss Pankey, douce enfant aux yeux bleus, que l'on frictionnait tous les matins de façon à lui écorcher la peau, fut tirée de prison par l'ogresse elle-même, qui lui apprit que toute personne qui osait renifler devant le monde ne pouvait jamais monter au ciel. Quand cette profonde vérité lui eut été bien inculquée dans l'esprit, on la régala de riz. Puis la petite fille récita une sorte de prière habituelle dans le château et qui se terminait par des actions de grâce à Madame Pipchin pour son dîner. La nièce de Madame Pipchin, Berintia, mangea un morceau de porc froid. Mais comme le tempérament de Madame Pipchin réclamait quelque chose de chaud, la bonne dame se fit servir à part des côtelettes de mouton qu'on lui apporta toutes bouillantes entre 2 assiettes et qui laissait échapper un fumet fort agréable. Comme il pleuvait, après le dîner, on ne put aller se promener sur la plage. Et le tempérament de Madame Pipchin réclamant du repos à la suite des côtelettes de mouton, les enfants sortirent avec Berry, autrement dit Berintia, pour aller au donjon, grande chambre, qui n'avait pour toute perspective qu'un mur blanchi à la chaux et un tonneau plein d'eau, mais dont l'aspect était rendu plus affreux encore par une énorme cheminée délabrée dans laquelle il n'y avait pas même de grille pour y faire du feu. Cependant, égayé par la société, cet endroit était encore le plus agréable, car Berry se mêla à leur jeu et fit le diable comme eux jusqu'au moment où Madame Pipchin, frappant avec colère contre le mur, comme le revenant de Cock Lane, les fit rentrer dans le silence. Ils se rangèrent alors autour de Berry, qui leur raconta tout bas des histoires jusqu'à la nuit. Au lieu de thé, on leur servit en abondance du lait coupé avec du pain et du beurre. Quant à Madame Pipchin et à Berry, elles eurent un petit pot de thé noir pour elles seules, et l'on apporta à Madame Pipchin un nombre illimité de rôties bien beurrées et toutes bouillantes comme les côtelettes. Madame Pipchin en mangea tant qu'elle en eut la figure et les mains toutes grasses, mais il ne parut pas que l'intérieur en fût le moins du monde adouci, car elle conserva le même air sec et son œil gris et dur ne changea pas d'expression. Après le thé, Berry prit une petite boîte à ouvrage sur le couvercle de laquelle se trouvait le pavillon royal et se mit à travailler avec ardeur. Pendant ce temps-là, Madame Pipchin arrangea ses lunettes sur son nez, ouvrit un gros livre recouvert de serge verte et commença son petit somme. Mais chaque fois qu'elle se réveillait en sursaut, au moment où elle allait tomber le nez dans le feu, elle appliquait une bonne chiquenaude sur le nez de Bitherstone, qui se permettait aussi de sommeiller de son côté. L'heure arriva enfin où les enfants devaient monter se coucher, et après la prière, ils allèrent au lit. Comme Miss Pankey avait très peur de rester seule dans l'obscurité, Madame Pipchin se faisait un devoir de la conduire elle-même en haut comme un pauvre petit mouton. Et là, c'était vraiment curieux d'entendre longtemps après Miss Pankey se lamenter dans la chambre la plus sombre et Madame Pipchin y rentrait de temps en temps pour la tancer vertement. À 9h30 environ, on apporta à Madame Pipchin un riz de veau bien chaud, car le tempérament de la bonne dame ne lui permettait pas d'aller se coucher sans s'être mis un riz de veau sur l'estomac. Le fumet de ce plat se répandait dans toute la maison, changeant un peu le parfum ordinaire de l'habitation que Madame Wickham appelait une odeur de bâtisse, et peu de temps après, le château était plongé dans le plus profond sommeil. Le lendemain, au déjeuner, le thé fut servi de la même manière que la veille au soir. Seulement, Madame Pipchin eut un petit pain au lieu de rôti et sembla encore de plus mauvaise humeur que de coutume quand elle l'eut fini. Pour récréation, Madame Pipchin fit lire à Bitherstone une généalogie de la Genèse, dont le choix faisait honneur à son jugement. Et le petit bonhomme déchiffra les noms avec la facilité et la légèreté d'un individu qui traîne le boulet. On emmena ensuite Miss Pankey pour la frictionner, et Bitherstone pour lui faire prendre un bain d'eau de mer, dont il sortit tout bleu et tout accablé. Pendant ces opérations, Paul et Florence allèrent se promener sur la plage avec Wickham, qui était en larmes du matin au soir. Et Madame Pipchin, sur le midi, fit faire aux enfants des lectures enfantines qui, par parenthèse, ne l'était guère, car c'était le système de Madame Pipchin de ne pas laisser l'intelligence des enfants se former et se développer comme une tendre fleur, mais de l'ouvrir de force comme une huître. La morale de ces leçons avait en général un caractère violent et saisissant. Il était rare que le héros du conte, méchant petit garçon, finît autrement que sous les dents d'un lion ou dans les griffes d'un ours. Telle était la vie que l'on menait chez Madame Pipchin. Le samedi, M. Dombey arrivait. Paul et Florence allaient le voir à son hôtel et y prenaient le thé. Ils passaient la journée du dimanche tout entière avec lui et en faisaient habituellement une promenade en voiture avant le dîner. Dans ces occasions, M. Dombey semblait se multiplier comme les assaillants de Falstaff. Au lieu de l'homme au bougran, il s'en trouvait une douzaine. La soirée du dimanche était la plus triste de toute la semaine, car Madame Pipchin s'était fait une règle d'être toujours de très mauvaise humeur le dimanche soir. On ramenait habituellement Miss Panquet de chez une tante qui habitait Rotten Dean, et la pauvre enfant revenait toujours dans le plus profond désespoir. Quant à Bitherstone, dont tous les parents étaient en Inde, il était condamné, entre les offices, à rester tout droit, le dos contre le mur du petit salon, sans remuer bras ni jambes, et sa jeune âme en souffrait si cruellement qu'il demanda à Florence, un dimanche soir, si elle ne pourrait pas lui indiquer le chemin pour retourner au Bengale. Cependant, on disait partout que Madame Pipchin était une maîtresse-femme pour gouverner les enfants. Et de fait, les plus sauvages rentraient chez eux bien apprivoisés, après quelques mois de séjour sous son toit hospitalier. On disait partout aussi que c'était beau de la part de Madame Pipchin de s'être adonnée à ce genre de vie, d'avoir fait ainsi le sacrifice de ses goûts, d'avoir fait tête à ses malheurs avec tant de fermeté, quand M. Pipchin était mort, le cœur brisé dans les mines du Pérou. Paul, assis dans son petit fauteuil auprès du feu, ne pouvait se lasser d'examiner cette vieille dame modèle pendant des heures entières. Il avait oublié ce que c'est que l'ennui quand il regardait fixement Madame Pipchin. Il ne l'aimait ni ne la craignait. Mais, avec ses habitudes de petit vieux, elle avait pour lui un attrait grotesque. Il restait là, tantôt la regardant, tantôt chauffant ses mains, puis la regardant encore, si bien que Madame Pipchin, tout ogresse qu'elle était, en était quelquefois troublée. Elle lui demanda un jour qu'ils étaient seuls à quoi il pensait. « À vous, dit Paul, sans y mettre la moindre discrétion. « Et que pensez-vous de moi ? » demanda Madame Pipchin. « Je pense que vous devez être bien vieille, dit Paul. « On ne dit pas cela, mon jeune monsieur, répondit la dame. « Ce n'est pas bien. « Pourquoi cela ? Demanda Paul. « Parce que ce n'est pas poli, dit Madame Pipchin avec aigreur. « Ce n'est pas poli, dit Paul. « Non. « Ce n'est pas poli non plus, dit Paul innocemment, de manger toutes les côtelettes de mouton et les rôtis, Wickham le dit bien. » Wickham, répliqua Madame Pipchin en rougissant de colère, Wickham est une méchante fille, une impudente, une vraie gueuse. Qu'est-ce que c'est qu'une gueuse ? Demanda Paul. Cela ne vous regarde pas, monsieur, répondit Madame Pipchin. Rappelez-vous l'histoire de ce petit garçon qui, pour avoir fait des questions fatigantes, a été éventré par un taureau enragé. Si le taureau était enragé, dit Paul, comment pouvait-il savoir que l'enfant avait fait des questions ? Personne ne s'en va conter des secrets à l'oreille d'un taureau enragé. Je ne crois pas à cette histoire-là. « Vous n'y croyez pas, monsieur ? » répéta Madame Pipchin, au comble de l'étonnement. « Non, dit Paul. « Et vous n'y croiriez pas davantage, petit incrédule, quand même le taureau aurait été doux comme un mouton, dit Madame Pipchin. » Comme Paul n'avait pas considéré le sujet sous ce point de vue, et qu'il n'avait pensé qu'à la folie supposée du taureau, il fut battu pour le moment. Mais il se mit à réfléchir à la question avec une intention si évidente de coller Madame Pipchin que la vieille dame, malgré son humeur inflexible, jugea prudent de faire retraite pour lui laisser le temps d'oublier le sujet. Depuis ce jour, on eût dit qu'un même attrait de singularité réciproque rapprochait Madame Pipchin du petit Paul. Elle lui faisait placer son fauteuil devant le feu du même côté qu'elle au lieu de le laisser en face. Et il restait là, dans le coin, entre le garde-feu et Madame Pipchin, la rose d'alépine noire faisant ombre sur sa petite figure. Il étudiait chaque trait, chaque ride de son visage, et perçait du regard son œil gris et dur, au point que Madame Pipchin, déconcertée, le fermait quelquefois comme pour sommeiller. Madame Pipchin avait un vieux chat noir qui s'installait juste au beau milieu de la cheminée en faisant son ronron sans se gêner le moins du monde et clignotant devant le feu jusqu'à ce que les prunelles de ses yeux ressemblassent à deux points d'admiration. On aurait pu prendre la vieille dame, sans manquer à tout le respect qu'on lui devait, pour une sorcière, et Paul et le chat pour ces deux démons familiers quand ils étaient ainsi tous trois devant le feu. À voir leur société réunie, on eût trouvé tout simple qu'ils eussent disparu un soir par la cheminée au milieu d'un tourbillon sans qu'on n'entendît plus jamais parler d'eux. Pour ce qui est de cela, cependant, la chose n'arriva jamais. Tous les soirs, on retrouvait à leur même place le chat, Paul et Madame Pipchin. Paul, évitant la compagnie de Bitherstone, faisait chaque soir une étude approfondie de Madame Pipchin, puis du chat, puis du feu. On eût dit qu'il lisait un ouvrage de nécromancie en 3 volumes. Madame Wickham, de son côté, cherchait à s'expliquer les bizarreries du caractère de Paul, et comme elle n'avait de la chambre qu'elle habitait d'autre distraction que la vue des tuyaux de cheminée et que le bruit du vent, elle s'enfonçait de plus en plus dans ses idées noires. La vie triste qu'elle menait, une vie de chien, suivant son expression énergique, lui faisait tirer des prémices connues les conséquences les plus tristes pour le petit bonhomme. Madame Pipchin, par politique, avait expressément défendu à sa bonne, à sa petite gueuse, non générique qu'elle donnait indistinctement à toutes les servantes, d'avoir le moindre rapport avec Madame Wickham. Pour voir si elle était obéie, elle passait la majeure partie de son temps à se cacher derrière les portes et à tomber à l'improviste sur la pauvre fille quand elle s'approchait de la chambre de Madame Wickham. Mais Berry pouvait avoir de ce côté toutes les familiarités qu'elle voulait, pourvu que les 1000 soins qu'il occupait du matin au soir n'en souffrissent pas. Aussi, c'était à Berry que Madame Wickham confiait toutes ses peines. « Quel gentil enfant quand il dort !» dit Berry en se baissant pour regarder Paul dans son lit, un soir qu'elle avait monté le souper de Wickham. « Ah !» soupira Wickham, « c'est bien le moins. »« Mais il n'est pas laid quand il est éveillé !» observa Berry. « Non, madame, non, non. Mais la fille de mon oncle, Betsy Jane, ne l'était pas davantage, » dit Wickham. Berry eut l'air de chercher dans sa tête quel rapport il pouvait y avoir entre Paul Dombey et Betsy Jane, la fille de son oncle. « La femme de mon oncle, » continua madame Wickham, « est morte tout à fait comme la mère du petit. L'enfant de mon oncle était aussi triste que monsieur Paul. L'enfant de mon oncle, voyez-vous, vous glacez le sang dans les veines quelquefois. » « Comment cela ?» demanda Berry. « Oh, je n'aurais pas voulu rester une nuit toute seule avec Betsy Jane, » dit Madame Wickham. « Non, quand même, on m'aurait promis d'établir Wickham à son compte le lendemain. Je ne l'aurais pas fait, Miss Berry. » Naturellement, Miss Berry demanda pourquoi. Mais Madame Wickham, selon l'usage de quelques personnes de sa condition, continua sans pitié. « Betsy Jane était bien la plus douce petite fille que j'ai jamais vue. » On en pouvait voir de plus douce. Betsy Jane n'échappa à aucune maladie des enfants. Elle était sujette à avoir des crampes, comme vous des boutons, Miss Berry. Miss Berry involontairement fronça son nez. Mais Betsy Jane, dit Madame Wickham en baissant la voix et en promenant autour de la chambre son regard qu'elle arrêta un moment sur le petit Paul, Betsy Jane avait été visitée dans son berceau par sa défunte mère. Dire quand et comment cela, je ne le pourrais. J'ignore aussi si la chère enfant en savait quelque chose. Mais pour sûr, Miss Berry, Betsy Jane avait eu un regard de sa défunte mère. Vous pouvez dire que ça n'a pas le sens commun. Je ne m'en fâcherai pas. Je souhaite pour vous-même que vous puissiez vous mettre dans la tête que ça n'a pas le sens commun. Vous en aurez l'esprit plus tranquille dans cette maison, si triste, pardonnez-moi ma franchise, qu'on se croirait dans un vrai cimetière. Pour moi, je me mine ici. Ah, monsieur Paul semble agité dans son sommeil. Tapez-lui un peu dans le dos, s'il vous plaît. Alors, vous croyez donc aussi, dit Berry en caressant tout doucement le petit dormeur, comme on le lui avait demandé, que lui aussi il a été hanté par sa mère? Betsy Jane, dit madame Wickham de son ton le plus solennel, a été martyrisée comme cet enfant. Et comme cet enfant, elle avait changé aussi. Je l'ai vue maintes et maintes fois s'asseoir pensive et rêver comme celui-ci. Je l'ai vue maintes et maintes fois vous regarder de ce même regard, si vieux, si vieux. Je l'ai entendu maintes et maintes fois causer comme lui tout à fait. Il y a pour moi, entre Betsy Jane et cet enfant, une ressemblance parfaite, Miss Berry. L'enfant de votre oncle vit-elle encore ? Demanda Berry. Certainement, elle vit, dit Madame Wickham d'un air triomphant, car il était évident que Miss Berry s'attendait à tout le contraire. Elle est même mariée à un ciseleur. Oui, oui, Miss Berry, elle est vivante, elle, répéta Madame Wickham en appuyant avec intention sur ce nominatif. Comme il était clair que quelqu'un était mort, la nièce de Madame Pipchin demanda qui ce pouvait être. « Je ne veux pas vous effrayer, » répondit Madame Wickham en continuant son souper. « Ne me le demandez pas. » C'était le plus sûr moyen de se le faire demander une seconde fois. Aussi Miss Berry renouvela-t-elle sa question, et, après un léger refus et une courte hésitation, Madame Wickham posa son couteau sur la table, regarda encore dans tous les coins de la chambre et du côté du lit de Paul, et répondit « Elle a pris en affection certaines personnes. » Quelquefois, c'était les caprices les plus bizarres qui dirigeaient son choix. Quelquefois aussi, ses amitiés n'avaient rien que de raisonnable. Quoique un peu plus vives, peut-être que ce n'est l'habitude. Berry, toutes les personnes qu'elle a aimées, sont mortes. La nièce de Madame Pipchin s'attendait si peu à ce dénouement terrible qu'elle se laissa tomber sur le bord du lit, toute haletante, regardant Madame Wickham avec une expression de profonde terreur. Celle-ci indiqua mystérieusement du doigt le lit de Florence, puis, d'une manière significative, le plancher. C'était juste en dessous que se trouvait la salle à manger, dans laquelle Madame Pipchin engloutissait habituellement ses rôtis. « Souvenez-vous de mes paroles, Miss Berry, » dit Madame Wickham, « et remerciez Dieu de ce que le petit Paul ne vous aime pas trop. Pour moi, je rends grâce au ciel qu'il ne m'ait pas prise en affection. Et cependant, pardonnez-moi ma franchise, on n'a jamais longtemps à vivre dans une prison comme celle-ci. » Soit que l'émotion de Miss Berry lui eût fait taper un peu trop fort Paul dans le dos, ou qu'elle se fût arrêtée tout court dans cet exercice calmant, mais monotone, il se tourna dans son lit juste à ce moment, s'éveilla, s'assit sur son séant, la tête brûlante et toute en sueur, sans doute sous l'impression de quelque mauvais rêve, et il appela Florence. La petite fille sauta en bas de son lit au premier son de sa voix, se pencha aussitôt sur son oreiller et se mit à chanter doucement pour l'endormir. Madame Wickham secoua la tête, quelques larmes coulèrent de ses yeux, puis elle montra à Berry les deux jeunes enfants et leva son regard vers le plafond. « Bonsoir, miss, » dit Wickham tout bas, « bonsoir et bonne nuit. Votre tante est vieille, Miss Berry, et ce n'est pas la première fois que vous avez dû y songer. » Madame Wickham fit à Berry cet adieu si consolant avec un air de commisération profonde. Quand elle se retrouva seule avec les deux enfants et qu'elle entendit le vent souffler tristement, elle se laissa aller à la mélancolie, plaisir facile et peu coûteux, jusqu'au moment où elle se sentit accablée par le sommeil. Quoique la nièce de Madame Pipchin ne s'attendît pas précisément à voir ce dragon modèle étendu sans vie sur le tapis de la cheminée, elle fut heureuse, après être descendue, de la retrouver plus maussade, plus sévère que de coutume, et paraissant toute disposée à vivre encore de longues années pour le bonheur de tous ceux qui la connaissaient. Pendant la semaine suivante, on ne la vit pas davantage tomber en langueur, et les viandes qui convenaient à son tempérament continuèrent à disparaître régulièrement les unes après les autres. Et pourtant, Paul l'étudiait toujours avec la même attention, et on le voyait toujours assis entre la robe noire et le garde-feu, avec une constance infatigable. Cependant, comme Paul, depuis le temps de son installation chez Madame Pipchin, n'était pas devenu plus fort, quoique sa mine fût beaucoup meilleure, on lui acheta une petite voiture dans laquelle il pouvait se tenir à son aise, avec un alphabet et d'autres petits livres à son usage, pendant qu'on le traînait sur le bord de la mer. Un jeune garçon frais et vermeil lui avait été proposé pour traîner sa voiture. Mais suivant son goût bizarre, il n'en avait pas voulu et avait préféré le grand-père, vieux bonhomme sec et maigre, qui ressemblait à un crabe, portait des vêtements de toile cirée, était devenu dur, coriace et nerveux à force d'être confit dans l'eau de mer et qui sentait le varech comme la plage que la marée vient de quitter. Il allait ainsi chaque jour sur le bord de l'océan, traîné par cet estimable serviteur. Florence marchant près de lui, et la triste Wickham fermant la marche. Quand il était arrivé sur la plage, il restait assis ou étendu dans sa petite voiture pendant des heures entières, sans pouvoir supporter près de lui d'autres enfants que Florence. « Allez-vous-en, s'il vous plaît, » disait-il à ceux qui s'approchaient pour lui tenir compagnie. « Merci, je n'ai pas besoin de vous. » Si une petite voix lui demandait par hasard à l'oreille comment il se portait, « Très bien, je vous remercie, » répondait-il, « mais vous ferez bien d'aller jouer. Allez, allez, s'il vous plaît. » Puis, voyant l'enfant s'en aller, il tournait la tête du côté de Florence et lui disait « Nous n'avons pas besoin des autres, nous, n'est-ce pas, Florence? Embrassez-moi. » Wickham elle-même l'ennuyait quelquefois, et il était bien aise quand elle s'éloignait un peu pour chercher des coquillages ou des connaissances. Il aimait surtout un endroit solitaire, bien loin des flâneurs. Et quand Florence, assise à ses côtés, travaillait, lisait tout haut ou causait avec lui, que le vent soufflait sur son visage et que les vagues montaient jusqu'aux roues de sa petite voiture, il ne désirait rien de plus. « Florence, dit-il un jour, où donc est l'Inde? Où demeurent les parents de ce petit garçon ?»« Oh, c'est loin, bien loin, dit Florence, en levant ses yeux de dessus son ouvrage. « Il faut des semaines pour y aller ?» demanda Paul. « Oui, mon chéri, il faut voyager pendant bien des semaines, le jour et la nuit. » « Florence, reprit Paul après un moment de silence, si vous alliez dans l'Inde, qu'a fait maman, dites, je l'ai oublié. » « Maman, elle m'a beaucoup aimé, répondit Florence. « Non, non, ce n'est pas cela. Moi aussi, Florence, je vous aime beaucoup. Mais qu'a donc fait maman ?»« Ah, je sais, elle est morte. Si vous étiez dans l'Inde, je mourrais, Florence. » Elle jeta son ouvrage de côté, pencha sa tête sur l'oreiller de son frère et le caressa. « Moi aussi, lui dit-elle, moi aussi je mourrais si vous étiez dans l'Inde. Mon petit frère, ne vous tourmentez pas, vous irez mieux bientôt. »« Oh, reprit Paul, je suis bien mieux déjà. Ce n'est pas cela que je veux dire. Je veux dire, Florence, que je mourrais de chagrin dans mon abandon. » Une autre fois, à la même place, il s'endormit et reposa tranquillement pendant longtemps. Tout à coup, il s'éveilla, écouta, tressaillit et s'assit pour mieux écouter. Florence lui demanda ce qu'il croyait entendre. « Je voudrais savoir ce qu'elle dit, » répondit Paul. « La mère, Florence. La mère, que répète-t-elle toujours ainsi ?»« Mais c'est tout simplement le bruit des vagues, » lui dit Florence. « Oui, oui, ce sont les vagues, mais elles disent toujours quelque chose. » « Toujours la même chose, » répondit Paul. « Qu'y a-t-il donc là-bas ? » Et il se leva tout debout et regarda ardemment l'horizon. Florence lui dit que c'était un autre pays qu'il y avait là-bas. « Non, non, » reprit Paul, « plus loin encore. Dites, qu'y a-t-il ? » Souvent depuis, ils s'arrêtaient court au milieu de leur causerie, cherchaient à comprendre ce que disaient toujours les vagues et se soulevaient sur son petit lit pour regarder ce pays invisible, bien loin là-bas.